On a distribué quelques aperçus. J'en ai peut-être encore un avec moi, mais on peut toujours faire des photocopies. Avant de lire, j'aimerais dire juste quelque chose aux enfants. Je vais donner quelques exemples qui vont toucher les enfants. Je vais aussi donner quelques exemples par la parole de Dieu qui vont peut-être toucher les frères et sœurs plus avancés au milieu de nous. Il y aura aussi des leçons pour ceux qui commencent sur le chemin de la foi. Donc je dis ça afin que vous ne vous découragez pas si vous ne comprenez pas tout ce que je dis. Il y a toujours quelque chose pour chacun de nous. Et si vous recevez ce que vous devez recevoir ce soir, vous avez eu la portion que le Seigneur vous a donnée et que le Seigneur vous veut donner. Donc il y a une portion pour moi et pour chacun de nous, sans doute. Si on ouvre la parole de Dieu, il y aura une bénédiction pour tout le monde. Esdras 7. Je ne peux pas donner le numéro de la page parce que ma pagination est différente, mais pour ceux qui ont besoin peut-être de l'aide, quelqu'un peut mentionner le numéro.
153.
Dans Esdras 7, nous avons d'abord la généalogie d'Esdras. On va juste lire le premier verset. Et après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, Esdras, fils de Seraïa, fils d'Azaria, fils de Hilkiah, et un peu plus loin, verset 5, on voit qu'il était aussi un fils de Phiné, fils d'Éliazar, fils d'Aaron, le chef des sacrificateurs. Cet Esdras, verset 6, monta de Babylone. Il était un scribe versé dans la loi de Moïse, qu'avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le roi lui accorda toute sa requête, selon que la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. Verset 7. Et un certain nombre des fils d'Israël, et des sacrificateurs, et des lévites, et des chantres, et des portiers, et des nitiniens, montèrent à Jérusalem, la septième année du roi Artaxerxès. Il arriva à Jérusalem, le cinquième mois, c'était la septième année du roi. Car le premier jour du premier mois, le projet de partir de Babylone fut arrêté, et le premier jour du cinquième mois, il arriva à Jérusalem, selon que la bonne main de son Dieu était sur lui. Car Esdras avait disposé son cœur à rechercher la loi de l'Éternel, et à la faire, et à enseigner en Israël les statuts et les ordonnances. Et c'est ici la copie de la lettre que le roi Artaxerxès donna à Esdras, le sacrificateur, le scribe, scribe des paroles, des commandements de l'Éternel et de ses statuts donnés à Israël. Puis le roi donne ici des instructions. Verset 13, « De par moi, ordre est donné que tous ceux du peuple d'Israël et de ses sacrificateurs, des Lévites qui dans mon royaume sont disposés à aller à Jérusalem, avec toi y aillent, puisque tu es envoyé par le roi et ses sept conseillers pour t'enquérir au sujet de Juda et de Jérusalem, selon la loi de ton Dieu qui est dans ta main, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont librement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. » Verset 16, « Ainsi que tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone avec l'offrande volontaire du peuple et des sacrificateurs qui offrent volontairement pour la maison de leur Dieu qui est à Jérusalem. Tu achèteras donc promptement avec cet argent des bœufs, des béliers, des agneaux et leurs offrandes de gâteaux et leurs libations et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu qui est à Jérusalem. » Et ce qu'il vous paraîtra bon à toi et à tes frères de faire avec le reste de l'argent et de l'or, faites-le selon la volonté de votre Dieu. Et les ustensiles qui te sont donnés pour le service de la maison de ton Dieu, remets-les devant le Dieu de Jérusalem. Et le reste des choses nécessaires pour la maison de ton Dieu que tu pourras avoir à donner, tu les donneras de la maison des trésors du roi. Et de par moi, moi, Artaxerxès, le roi, ordre est donné à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de faire promptement tout ce qu'Esdras, sacrificateur, scribe de la loi du Dieu des cieux, vous demandera, jusqu'à 100 talents d'argent, et jusqu'à 100 corps de froment, et jusqu'à 100 battes de vin, et jusqu'à 100 battes d'huile et du sel, sans sans prescription de quantité, que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux soit fait exactement pour la maison du Dieu des cieux. Car pourquoi y aurait-il colère contre le royaume du roi et de ses fils? Et nous vous faisons savoir que sur tous les sacrificateurs et les lévites, chantres, portiers, nitiniens et serviteurs de cette maison de Dieu, il ne peut être levé aucun tribut, ni impôt, ni péage. Et toi, Esdras, selon la sagesse de ton Dieu, laquelle est en ta main, établis des magistrats et des juges qui jugeront tout le peuple de l'autre côté du fleuve, tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu. Et à celui qui ne les connaît pas, faites-les connaître. Et quiconque ne pratique pas la loi de ton Dieu et la loi du roi, qu'il en soit fait justice promptement, ou par la mort, ou par l'exil, ou par la confiscation de ses biens, ou par l'emprisonnement. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a mis de telles pensées dans le cœur du roi, d'orner la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem, et qui a étendu sur moi sa bonté devant le roi et ses conseillers et tous les puissants princes du roi. Et moi, je fus fortifié selon que la main de l'Éternel, mon Dieu, était sur moi, et je rassemblais d'Israël des chefs pour monter avec moi. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Si vous avez des questions pendant l'étude de ce soir, écrivez-les, s'il vous plaît. Puis, à la fin, on peut essayer de répondre à ces questions-là. Deuxièmement, si vous avez besoin d'un aperçu, on peut faire des photocopies, je peux laisser un exemple. Mais je ne peux pas revenir à tous les détails que j'ai donnés dans l'introduction, lorsqu'on a étudié le premier chapitre. Mais je mentionne, juste pour faire le lien, trois choses. Puis là, vous allez voir aussi que ces choses sont très utiles pour nous dans la lumière du Nouveau Testament. Vous voyez, l'Ancien Testament, c'est comme un livre d'illustration. C'est comme un livre qui donne beaucoup d'images et qui nous aide à réaliser les pensées de Dieu comme on les trouve dans le Nouveau Testament. Donc, ce n'est pas notre intention ce soir de vous mettre sous le joug de la loi de l'Ancien Testament. Si on prend l'Ancien Testament, on le fait comme Paul le fait dans 1 Corinthiens 10. Ce serait un chapitre pour vous à étudier. Dans 1 Corinthiens 10, Paul montre que les choses du passé de l'Ancien Testament ont été écrites pour vous et moi. Pas pour les gens qui ont vécu dans ce temps-là. Ces choses ont été écrites pour vous et moi. Donc ça, c'est un point important. Donc avec cette instruction du Nouveau Testament, on peut avoir des leçons de ces histoires de l'Ancien Testament. Ça, c'est un point général. Deuxième chose, puis je vais le diviser en trois points, là. Cette deuxième chose, c'est le contexte du livre d'Esdras. C'est un temps de restauration. On a vu que le petit reste est revenu de la captivité babylonienne. Puis, ils ont à cœur trois choses. D'abord, l'autel. L'autel, on a vu dans Esdras 3. Et l'autel nous parle de la table du Seigneur. Lorsqu'on se réunit le dimanche, autour du Seigneur, c'est autour de la table du Seigneur. Et on trouve cette table, donc, présentée par cette image de l'autel. L'autel est la table de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, et la table du Seigneur, dans le Nouveau Testament. Malachie 1 et 1 Corinthiens 10 le confirment. Puis, c'est beau de voir qu'ils ont eu à cœur, premièrement, les intérêts de Dieu. Ils auraient pu dire, OK, on va d'abord construire des maisons pour nos familles. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont mis l'autel sur sa place à Jérusalem. Donc, on peut tirer une leçon de cela pour nous. Est-ce qu'on a à cœur les intérêts de Dieu avant mes propres intérêts? C'est ça le point. La deuxième chose, ensuite, ils ont construit une maison pour Dieu, le temple. Puis, ils ont eu des épreuves, ils ont manqué. À un moment donné, ils ont donné plus de poids à leurs intérêts qu'au lieu des intérêts de Dieu, au lieu aux intérêts de Dieu. Mais là, les prophètes sont venus, on a vu ça dans le chapitre 5, Agée et Zacharie, puis l'œuvre a recommencé, puis le temple a été complété. Le temple, pour nous, c'est une illustration de quoi? De la maison de Dieu. Puis j'ai dit aussi dans l'introduction que Esdras nous présente un thème général, c'est le thème de la maison de Dieu. Vous et moi, les croyants, on fait partie de la maison de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Éphésiens 2, on voit que tous les enfants de Dieu ensemble croissent comme un temple saint dans le Seigneur. Et ils sont aussi comme une maison. Dans cette maison-là, Dieu habite et nous habitons là aussi. On est des pierres de cette maison-là, mais on habite aussi dans cette maison-là. C'est donc le langage figuratif du Nouveau Testament. Puis avec ces instructions de l'Ancien Testament, on peut avoir beaucoup de profit de ces illustrations. La troisième chose qu'ils ont réalisé plus tard, sous Néhémie, c'est pour ça que Esdras et Néhémie vont ensemble. Néhémie a eu à cœur de rebâtir la ville, mais d'abord la muraille, pour protéger les choses de Dieu, pour protéger l'autel, pour protéger le temple de Dieu. Donc ça, c'est une pensée additionnelle. Ça parle de l'administration, la cité de Dieu. C'est l'administration. Il y a aussi une question d'administration en rapport avec l'assemblée de Dieu. Donc l'assemblée, on voit en rapport avec la table du Seigneur. L'assemblée, on voit comme la maison de Dieu, le temple ici, et on voit l'assemblée comme la cité de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, c'est important de voir le lien entre ces choses qui sont comme des illustrations, des vérités qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Mais maintenant, vous dites peut-être, mais pourquoi lire toutes ces choses-là? Parce que le Nouveau Testament donne les principes de base, tandis que l'Ancien Testament, par ses illustrations, nous donne des leçons pratiques à apprendre. Comment marcher dans ces vérités-là? Okay? C'est ça le point de l'Ancien Testament. Maintenant, pour revenir à chapitre 7, je voulais juste encore marquer quelques points importants en rapport avec un réveil. On vit ici dans le temps d'un réveil. Puis vous pouvez avoir quelques détails sur les feuilles que j'ai données, mais peut-être je peux juste résumer quelques points importants. Connaître les pensées de Dieu en rapport avec la maison de Dieu. Donc, est-ce qu'on connaît les pensées de Dieu en rapport avec la maison de Dieu, l'ordre de la maison, la sainteté de la maison, la lumière qui est dans la maison, en rapport avec la connaissance de Dieu? La deuxième question, on s'est posé quelques fois aussi au début du livre, est-ce qu'on serait disponible? Comme ces gens-là étaient disponibles, l'appel de Dieu est venu, ils ont dit, oui, je suis prêt. Est-ce qu'on est prêt pour donner suite à cet appel de Dieu? Est-ce qu'on est disponible? Troisième chose, ce sont des questions que moi je me pose aussi, est-ce qu'on a quelque chose à contribuer? Ces gens-là avaient certaines contributions, l'effort physique, des trésors quelquefois, ou des offrandes, il avait quelque chose à contribuer. Si vous venez ici, attirer au Seigneur Jésus, ça c'est le point de base. On vient ici parce qu'on est attiré par la personne du Seigneur Jésus. Mais là, la question se pose, est-ce que je viens aussi pour contribuer quelque chose? Parce que souvent, on est comme des consommateurs, on veut recevoir, 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 recevoir. Ça ne finit pas. Est-ce qu'on a aussi quelque chose à contribuer? Peut-être par des prières à la maison. On prie pour les frères et les sœurs, pour les enfants. Donc, il y a des choses à contribuer aussi pour le bien de la maison de Dieu. Dans Exode 25, lorsque le peuple a eu à cœur de construire le tabernacle, il y avait un esprit libéral et un cœur qui était prêt pour faire la volonté de Dieu. C'est la question de contribuer. Puis ça va ensemble avec la question de notre état spirituel. Est-ce que je suis dans un bon état spirituel? Ça, c'est important. Si je vis dans le péché, ou si je suis dissatisfait, ou mécontent, quel empêchement que ce soit, je ne peux pas contribuer pour la maison de Dieu. Une autre chose que j'aimerais aussi souligner, on voit ici dans Esdras des détails qu'on ne voit pas avant la captivité babylonienne. Ça, c'est peut-être un peu pour ceux qui sont un peu plus avancés, mais il y a une richesse dans ce livre-là, aussi dans Néhémie, une richesse, certaines choses qu'on ne voit pas dans cette richesse-là avant ce jour-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Si on a toujours des raisons pour apprendre quelque chose et pour être surpris par la richesse de Dieu, même si nous vivons comme dans un temps aujourd'hui où tout est en ruine, où tout s'écroule, où on dit, mais ça ne vaut plus la peine. Non. Il ne faut jamais oublier que nous avons affaire avec un Dieu qui est très riche, qui est très grand. Puis on voit cette grandeur de Dieu dans ces livres d'Esdras, Néhémie, même dans ces livres comme Agée, Zacharie et Malachie. Et ce ministère prophétique qui allait ensemble avec tout cela. Donc Dieu contribue aussi. Si moi je contribue, Dieu dit, mais moi j'ai quelque chose à vous donner. Beaucoup. Dieu a beaucoup de richesses à nous donner. Et puis, on voit cela aussi dans la providence, dans la main de Dieu. Je vais revenir à ça. La main de Dieu, en providence, en bénédiction. tout cela nous amène aussi à l'adoration. Si vous, vous avez vu là, à la fin du chapitre 7, on voit là un serviteur de Dieu qui adore son Dieu. Et puis si vous tournez encore une page, à la fin de Esdras 8, qu'est-ce qu'on voit là? Là, on voit tout le résidu qui était revenu de Babylone. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont présenté des holocaustes et des sacrifices pour le péché. L'adoration. OK? Donc, je voulais juste souligner ces quelques points, et sans doute, vous allez voir d'autres points aussi si vous, vous prenez ces feuilles-là pour étudier. Maintenant, chapitre 7. Est-ce que vous savez que c'était à peu près 79 ou 80 années après le décret du roi Cyrus que cette histoire commence? C'était presque 60 ans après que le temple soit rebâti. 60 ans. Il y a au moins un frère ici qui a 60 ans. Mais supposons que 60 ans après notre conversion, après notre premier départ, quelle serait notre condition? Quelle serait notre situation 60 ans après? J'ai dit ça pour souligner une chose. Il y avait de nouveau un besoin pour un réveil. Mais Dieu ne répète jamais les choses. Le réveil au début d'Esdras avait un autre caractère que le réveil d'Esdras. Ça ne veut pas dire que les deux étaient opposés, non. Le réveil sous Esdras a ajouté quelque chose à ce que Dieu a donné au premier réveil. C'est toujours là avec Dieu. Dieu ajoute toujours. Puis la chose qu'il ajoute ici, c'est ça le point pour nous à comprendre vraiment. Si vous voulez lire Esdras 7, verset 27 de nouveau. Là, Esdras a béni Dieu, que Dieu avait mis donc de telles choses, de telles pensées dans le cœur du roi. Et qu'est-ce qu'il dit là? D'orner la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Il y a une pensée additionnelle. Orner la maison de l'Éternel. Donc vous voyez, le premier réveil a causé un reste à partir de Babylone, être libéré de l'influence de Babel, être libre maintenant pour servir Dieu, selon les pensées de Dieu. Ils ont placé l'autel, ils ont rebâti le temple, mais maintenant il y a un besoin. Tout était prêt, on dirait, mais maintenant tout est fini. Non, il y a toujours ce besoin-là, d'orner la maison de l'Éternel. Et ça, c'est pour chaque génération. Si vous avez appris quelque chose de vos parents, comme moi, c'est beau. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais moi-même? C'est là l'exercice d'Esdras. Il n'a pas dit, OK, mes parents ont fait ça, c'est bon. Donc, on continue juste comme ça, oui, mais il ajoute quelque chose. Il a quelque chose à contribuer pour orner la maison de Dieu. Puis une des raisons pour lesquelles vous êtes ici ce soir, c'est pour que vous puissiez, ensemble avec moi, orner la maison de Dieu. Et c'est ça, l'exercice d'Esdras. Maintenant, pour revenir au début du chapitre, on a beaucoup de leçons pratiques. C'est une autre raison pour laquelle on a de tels chapitres. Pas seulement pour comprendre où on est dans l'histoire de l'Église, mais aussi pour avoir des leçons bien pratiques. Chaque page nous donne des leçons pratiques. Mais, j'ajoute tout de suite, chaque page nous présente quelque chose du Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'on veut lire chaque page. Si vous avez ce goût pour lire la parole de Dieu, si vous avez le goût pour méditer la parole de Dieu, hein, par l'Esprit Saint, par juste en lisant les pages de la parole de Dieu, vous allez trouver quelque chose du Seigneur Jésus sur chaque page. Mon père m'a raconté une fois une histoire, il a visité un homme qui s'est converti, ils ont eu des réunions d'évangélisation, et puis cet homme était socialiste, et puis il ne connaissait rien de Dieu. Puis là, il s'est converti, puis mon père l'a visité, puis il avait reçu une Bible, puis il avait commencé à lire dans la Bible, il était tellement découragé, il dit, j'en comprends rien, pas du tout, rien du tout. Puis là, ils ont prié, puis mon père a donné quelques suggestions. Il a commencé dans l'évangile selon Jean. Donc on encourage souvent les gens à commencer là. Et puis quelques années après, mon père l'a revu, puis il avait marqué sa Bible. Il était malade, puis il avait marqué. Mon père a demandé s'il pouvait avoir sa Bible juste pour lire une portion de la parole de Dieu. Puis là, il avait vu toutes sortes de passages, souligné. Puis là, il a dit, oui, j'ai appris à lire la parole de Dieu, et puis j'ai appris à apprécier la parole de Dieu. Donc on commence jeune, parce qu'il y a beaucoup de jeunes enfants au milieu de nous. Puis je raconte une autre histoire maintenant. Qu'est-ce qu'on voit ici? Esdras était un scribe. Le mot scribe, surtout au latin, mais aussi dans l'hébreu, est intimement lié au mot livre. Puis le mot livre est souvent utilisé pour la Bible. Donc qu'est-ce qu'un scribe veut dire dans ce contexte-là? Souvent un scribe était aussi un homme haut placé pour écrire pour le roi. Mais ici, dans ce contexte-là, le scribe a cette signification-là, qu'il était familier avec le livre de Dieu. Est-ce qu'on est familier avec le livre de Dieu? Parmi les juifs orthodoxes, comme Esdras, il a été élevé parmi les juifs qu'on appelle aujourd'hui les juifs orthodoxes. Puis il y a encore des sectes parmi les juifs orthodoxes où les jeunes garçons qui veulent devenir des rabbins plus tard, ils doivent connaître par cœur tous les livres de Moïse à l'âge de 12 ans. Et pas dans la langue qu'ils parlent, en français ou en anglais ou en allemand, dans l'hébreu, en hébreu. En plus de ça, lorsqu'ils ont 18 ans, ils doivent connaître par cœur tout l'Ancien Testament. Évidemment, parce que les juifs orthodoxes rejettent le Nouveau Testament. Donc, ils ne lisent que l'Ancien Testament. Puis, à l'âge de 21 ans, avant qu'ils commencent leurs études comme rabbins, ils doivent passer un test. Puis, selon ce test-là, l'examinateur prend une Bible, puis là, un clou, puis il pénètre le clou là-dedans. C'était la coutume dans le passé. Je ne sais pas s'ils le font encore aujourd'hui, mais au début de ce siècle, ils l'ont fait comme ça. Ils ont mis le clou quelque part. Puis l'examinateur a dit page 123. Troisième ligne d'en bas. Troisième mot. Puis le garçon a dû donner le mot. Puis là, l'examinateur a dit la page suivante, la même place, quel mot? Il a donné le mot. Ou en arrière. Donc ça veut dire qu'il connaissait la Bible par cœur, mais il connaissait chaque mot et la place où le mot se trouvait. Malheureusement, après cette examination, il allait étudier les écrits des rabbins. Ils n'ont pas continué dans la Bible, malheureusement. Mais c'est juste pour donner un exemple, comment il était formé pour lire la Bible. Maintenant, nous avons beaucoup plus de raisons pour lire la Bible, pour lire l'Ancien Testament. Comme j'ai dit, on trouve sur chaque page le Seigneur Jésus. Mais avec la lumière du Nouveau Testament, ces Juifs-là n'avaient pas la lumière du Nouveau Testament, ils n'avaient pas l'Esprit. Vous et moi, par la grâce de Dieu, nous, ceux qui sommes sauvés, nous avons l'Esprit de Dieu. Et nous avons la connaissance du Seigneur Jésus qui est maintenant glorifié. Donc, avec cette aide-là, ces ressources que Dieu nous donne, on peut lire avec beaucoup plus de zèle, avec beaucoup plus d'intérêt, l'Ancien Testament et toute la Bible. Mais Esdras est maintenant pour nous un exemple. Comme j'ai dit, ces jeunes garçons-là, dans le judaïsme, étaient dans ce sens-là un exemple pour nous aussi. Mais Esdras était un exemple à plusieurs égards. Pas seulement par la ligne de descendance qui descendait de Aaron, c'est bon qu'il réalisait cette descendance, qu'il appréciait aussi. Est-ce qu'on apprécie ce que d'autres dans la famille de Dieu nous ont confié dans le passé? Est-ce qu'on apprécie celui qui nous a présenté l'Évangile, qui nous a instruit? Est-ce qu'on apprécie ce que ce frère ou cette sœur nous a donné? Puis cette descendance mentionne aussi de noms très fameux comme Phinée. C'était un sacrificateur très fidèle dans les jours où il y avait des tests au milieu du peuple de Dieu. Et Éléazar aussi, un autre sacrificateur fidèle. Donc, il était dans une ligne de sacrificateurs fidèles. Aussi, les autres noms qui sont mentionnés, Seraïa et Ilkia, étaient des sacrificateurs fidèles qui étaient connus, qu'on retrouve dans la parole de Dieu. En contraste avec d'autres descendants, comme Moïse, il avait aussi des enfants et des petits-enfants. Le petit-fils de Moïse a introduit l'idolâtrie au milieu du peuple de Dieu. On a vu ça lorsqu'on a étudier les juges, ou David, ses enfants, ou même ses petits-enfants, souvent ils sont allés dans la mauvaise direction. Donc pour nous, c'est un encouragement. Si on est fidèle, comme les fils d'Aaron, là, ça peut arriver que nous ayons aussi des descendants spirituels, ou physiques aussi, qui seront fidèles. La deuxième chose... C'est pas la deuxième chose, je ne sais pas quelle chose maintenant, mais l'autre point que j'aimerais souligner, c'est maintenant dans le verset 6. Esdras était donc versé dans la loi de Moïse, qu'avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et je répète, ce n'est pas parce qu'on veut se placer sous la loi, mais l'exemple qu'on a ici, est-ce qu'on apprécie la parole de Dieu? La loi du Dieu d'Israël parle ici de la parole de Dieu. C'est tout l'Ancien Testament, pour nous aussi, toute la Bible. Est-ce qu'on est versé? Est-ce qu'on est bien familier? Est-ce qu'on connaît la Bible? L'autre point que j'aimerais souligner, ça va ensemble, il est dit ici, le roi lui accorda toute sa requête, selon que la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. En autre mot, on voit ici un homme fidèle. Puis dans 1 Samuel, il y a un verset, 1 Samuel 2, je pense que c'est verset 35. Il faut apprendre ça par cœur. Dieu dit là à Élie, ceux qui m'honorent, moi, je les honorerai. Donc si nous honorons Dieu dans notre marche, dans notre attitude, Dieu va nous honorer. Ça, c'est le gouvernement moral de Dieu. Puis on voit ici comment Dieu intervient ici pour Esdras, selon que la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. On voit ici la provision de la main de Dieu. Quelle provision merveilleuse de la main de Dieu. Ce serait un sujet à part, mais je voulais quand même souligner quelques versets parce que ça revient souvent. On voit ici comment Dieu s'identifie avec un homme fidèle. C'est ici le Dieu des cieux. À cause de l'infidélité du peuple de Dieu, Dieu s'est retiré de la terre. Il habite dans les cieux. Mais il s'identifie publiquement ici avec un serviteur qui est fidèle. Et Dieu veut encore aujourd'hui s'identifier avec vous et moi, si nous voulons marcher avec lui. Le Seigneur a dit, moi, je suis avec vous tous les jours. En outre aussi, vous êtes les disciples du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus dit à Jamie ou n'importe quelle personne ici qui veut suivre le Seigneur Jésus, je suis avec vous tous les jours. On le voit ici. Puis la main de Dieu, c'est très beau de voir ça. Je vais juste marquer ce point-là, verset 9. Il arriva à Jérusalem selon que la bonne main de son Dieu était sur lui. Vous voyez la conduite. La main de Dieu nous conduit. Il nous dirige dans la bonne direction. Ensuite, un peu plus loin, dans le verset 28, au milieu du verset 28, « Et moi, je fus fortifié selon que la main de l'Éternel, mon Dieu, était sur moi. » Ça, c'est une chose merveilleuse. Être fortifié, on pourrait traduire aussi « encouragé », fortifié par la main de l'Éternel. On voit comment l'Éternel s'identifie avec son serviteur. Et dans le chapitre 8, verset 22, il dit, « La main de notre Dieu est en bien sur tous ceux qui le cherchent. » Ça, c'est la confession d'Esdras devant le roi. La main de notre Dieu. Donc, Dieu s'identifie avec tout le reste, là. Pas seulement avec une personne, avec tout le reste. Mais vous voyez, la fidélité d'Esdras a affecté d'autres. Ils ont suivi Dieu avec Esdras. Donc, c'est encore un encouragement pour nous. Être fidèle, ça va affecter d'autres aussi. Puis Dieu met sa bonne main sur tous. Et encore un peu plus loin, nous lisons, je pense, le verset 31. « Et la main de notre Dieu fut sur nous et nous délivra de la main de l'ennemi. » Donc la main de Dieu était là pour les protéger, pour les délivrer d'une autre main, de la main de l'ennemi, de la puissance de l'ennemi. Et je pense, ça revient encore quelquefois, mais la main de Dieu, c'est vraiment une main qui nous dirige, une main qui pourvoit dans nos besoins, qui nous protège, qui nous encourage, qui nous fortifie. Puis ça va ensemble avec la main d'Esdras. Qu'est-ce qu'Esdras avait dans sa main? On va voir ça tantôt. La parole de Dieu. Esdras avait dans sa main les choses de Dieu. Puis on va voir aussi le peuple qui était avec lui. Leur fidélité. Dieu leur a donné des trésors pour transporter. Des trésors. Et aussi notre main, ce que nous faisons avec notre main, ça parle de notre responsabilité. Nous avons tous une main pour faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait avec notre main? On est rendu au verset 6 à la fin, son Dieu, donc ça parle de la relation aussi qu'il avait avec Dieu. Maintenant, on voit dans le verset 7, Esdras 7, verset 7, tous ceux qui sont venus avec lui. Donc j'ai dit, un réveil souvent commence par une seule personne. Esdras, ici, il était exercé après 60 ans, monté à Jérusalem pour les intérêts de Dieu. Puis maintenant, il y en a d'autres qui sont avec lui. Pas seulement ça, le roi, dans la main de Dieu, donne ce qui est nécessaire pour qu'il puisse y aller. On voit donc les provisions de Dieu. Maintenant, ceux qui sont venus, du nombre des fils d'Israël. On a vu dans Esdras 2 déjà, la question du fils d'Israël parle d'une relation avec Dieu. Est-ce qu'on a cette relation avec Dieu? On s'est posé cette question-là dans Esdras 2. Deuxième question, des sacrificateurs. Est-ce qu'on veut fonctionner comme des sacrificateurs? Tous les croyants aujourd'hui, selon les pensées de Dieu, sont des sacrificateurs. Mais la plupart restent en Babylone. Ici, il y en avait qui sont sortis de Babylone pour aller à Jérusalem, pour être là où Dieu voulait habiter avec son peuple. Dieu ne pouvait pas habiter parmi les idoles de Babylone. Ça, c'est encore aujourd'hui la même question. Dieu n'habite pas au milieu des idoles. Dieu est séparé de l'idolâtrie. Puis il veut que nous soyons séparés de l'idolâtrie. Et ainsi, il y avait des Lévites. Les Lévites avaient la charge d'aider aux sacrificateurs. Et ensuite, des chantres et des portiers, on en a parlé dans Esdras 2. Est-ce qu'on fonctionne comme des portiers? Parce que les portiers doivent faire entrer ce qui est bon. Ils doivent exclure ce qui est mal. Donc les portiers doivent être là toujours aussi. Les chantres doivent être là pour chanter. Est-ce qu'on est des chantres vraiment? Pour chanter à la gloire de Dieu. Et aussi des Nitiniens. C'était les descendants probablement des Gibionites. Dans Josué 9, on voit une race des Cananéens qui étaient maudites vraiment, mais par la grâce de Dieu, ils ont été incorporés au milieu du peuple de Dieu. Pas à l'infidélité de Josué d'ailleurs, mais en tout cas, ils étaient là. Puis plus tard, ils sont devenus des gens qui étaient impliqués dans le service de Dieu pour chercher de l'eau ou du bois et de tels services. Donc les Nitiniens étaient aussi, le mot veut dire ceux qui ont été donnés. Littéralement traduit, ça veut dire ceux qui ont été donnés. Pourquoi? Pour le service de Dieu. C'est beau. Plus tard, on va voir que dans le chapitre 8, que les Lévites manquaient. Mais les Nétiniens étaient là en masse. Ça peut aujourd'hui qu'il nous manque de docteurs. J'étais une fois dans un rassemblement, puis quelques frères disaient, on n'a pas de docteur, on n'a pas d'évangéliste, on n'a pas de pasteur, on n'a rien. Mais chaque croyant est là pour contribuer, comme nous avons vu au début. Et chaque croyant peut être un Nétinien, peut être donné au service. Est-ce qu'on est donné au service? C'est souvent humiliant parce que ça implique des choses qui ne nous rendent pas très fameux ou que tout le monde voit ce qu'on a fait. Mais Dieu le voit. Dieu voyait la fidélité des Nétiniens. Les Lévites étaient plus au public. C'était un service public. Ce que les Nétiniens faisaient, c'était en arrière. C'était en arrière des coulisses, pour ainsi dire. Mais c'était des services indispensable. Ainsi, pour chaque croyant, il y a des services. Ils montèrent à Jérusalem. C'est beau de voir ça. Dieu, on a vu Jérusalem sur la montagne de Dieu. C'est là où Dieu habite. Babylone était dans la plaine. C'était en bas, pour ainsi dire. Il y a donc ici un changement de position au milieu des idoles, sous l'esclavage, ou bien attirer la montagne, attirer à Dieu, pour être là où il habite. Maintenant, on pourrait se poser cette question-là aussi, mais pourquoi ce roi avait cette disposition du cœur pour laisser aller Esdras et son peuple? Vous voyez, les rois des Mèdes et des Perses avaient une autre stratégie que Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar voulait l'uniformité de son royaume. Tous les peuples devaient être uniformes, pareils, servir le même dieu ou l'idole du roi de Babel. Tandis que les lois des Mèdes et des Perses étaient différentes. Leur stratégie était de laisser les peuples qu'ils avaient conquéris dans leur religion, à eux. Puis ainsi, ils voulaient aussi stimuler l'exercice de ces gens-là de servir leur propre dieu. Je ne suis pas sûr si le roi de Perse a vraiment réalisé qu'il avait affaire avec le seul et vrai Dieu, en rapport avec Esdras. On ne sait pas. Mais en tout cas, il était un outil dans les mains de Dieu pour ouvrir la porte pour Esdras. Mais avant qu'on parle de ça, juste voyez encore le verset 10. Ça, c'est un verset. Si vous apprenez par cœur ce verset-là, ce soir-là, et puis si vous allez mettre ces choses en pratique, vous avez gagné beaucoup. Trois points que j'aimerais souligner. Verset 10 dit, car Esdras avait disposé son cœur à rechercher la loi de l'Éternel. C'est le premier point. Le verset 10. Deuxième point, à la faire. Troisième point, à enseigner en Israël les statuts et les ordonnances. Trois choses. J'aimerais juste parler de ces quelques versets, de ce verset, ces quelques points. D'abord, la question de notre cœur. Esdras avait disposé son cœur. Donc, c'était un acte volontaire. Il avait décidé de mettre son cœur dans ces choses. On voit dans Daniel 1, Daniel et ses amis ne voulaient pas se souiller dans l'idolâtrie du roi de Babylone. Ils avaient décidé dans leur cœur de ne pas se souiller de l'idolâtrie du roi de Babylone. Ici, on voit un autre exemple. Quelqu'un qui avait disposé son cœur, maintenant c'est positif, pas seulement pour ne pas être souillé, ce qui est correct, mais maintenant pour chercher, rechercher, ça veut dire un effort spécial, rechercher la loi de l'Éternel, ou lisons pour nous, la parole de Dieu. Est-ce qu'on a à cœur vraiment? Est-ce qu'on dispose nos cœurs pour rechercher? Ça veut dire examiner, étudier, lire avec soin la parole de Dieu. Ça peut commencer jeune. On peut commencer jeune à lire la parole de Dieu. À un moment donné, j'avais, je pense, 8 ou 9 ans, j'ai commencé la parole de Dieu, mais je ne suis pas rendu à la fin. À un moment donné, j'étais un peu découragé, puis j'ai lâché. Ça peut arriver. Mais plus tard, j'ai repris. On peut commencer jeune. Et puis, je pense, on doit commencer jeune. Si vous n'avez pas à cœur, comme les jeunes hein, parmi nous, là, à lire la parole de Dieu, maintenant, ça ne va jamais venir. Il faut commencer maintenant. Et si on est jeune dans la foi, nouvellement converti, il faut commencer maintenant. Si vous dites, oh, je vais attendre jusqu'à ma retraite, là, ça ne viendra jamais. Donc, il faut commencer à lire la parole de Dieu. Avec ce zèle qu'on voit ici dans Esdras, il a disposé son cœur. Puis, le cœur, c'est vrai important, très important. Parce que ça nous parle de là où sont les issues de la vie. Si mon cœur est sous le contrôle de la parole de Dieu, il y aura de bons résultats, de bonnes conséquences. On voit beaucoup de versets dans la Bible qui nous parlent de l'état de notre cœur. Il y avait un serviteur dans Matthieu 24, le Seigneur parle de ce serviteur qui est devenu infidèle. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans son cœur, « Mon maître tarde à venir. » Son cœur n'était pas bon pour le Seigneur. Il y a beaucoup de choses en rapport avec le cœur. Hébreux 10 nous parle de libre accès que nous avons avec un cœur pur et vrai. On peut servir Dieu, on peut être dans la présence de Dieu, mais il faut avoir un cœur pur et vrai. Ça veut dire, il faut se juger, il faut mettre de côté, s'il y a un péché dans ma vie, il faut que je juge et que je lâche ça, absolument. Autrement, je n'ai pas un cœur pur et vrai. Donc, Dieu cherche un cœur pur et vrai. Puis, si on a cette condition-là, on va rechercher la parole de Dieu. Peut-être vous connaissez à un moment donné la parole de Dieu par cœur. C'est bon, mais ça ne finit pas là. Il y a maintenant une deuxième chose. On voit ici comment Dieu a préparé Esdras à l'école de Dieu. Lorsque Esdras était à la maison, là, ou là à Babylone, avec ses parents, puis il a étudié beaucoup la Bible. Mais il a fait aussi quelque chose. Il a fait. Ça veut dire qu'il a mis en pratique. Un autre verset qui me revient là dans Éphésiens 1, verset 18, nous parle des yeux de nos cœurs. Dieu veut nous donner cette intelligence spirituelle, qu'on puisse connaître les pensées de Dieu. Ça va ensemble avec la condition de nos cœurs. Mais c'est une chose. La deuxième chose, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. C'est là où on manque, encore plus. On manque pour lire la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on ne manque pas à cet égard-là de la mettre en pratique? Pour le Seigneur Jésus, nous lisons de ce qu'il a fait et ce qu'il a enseigné. On va revenir à l'enseignement tantôt. Il a fait certaines choses. Le Seigneur a dit aux disciples, vous êtes bienheureux parce que vous connaissez toutes ces choses-là. Est-ce qu'il a dit ça? Il a dit, vous êtes bienheureux parce que vous connaissez ces choses. Non, parce que vous faites ces choses. Donc, il faut connaître les pensées de Dieu d'abord. Mais pourquoi les connaître? Pour les mettre en pratique. Dans Jacques, Il dit, Jacques 1, il dit, il ne faut pas nous décevoir, il ne faut pas que vous vous déceviez. Si vous connaissez ces choses, il faut les mettre en pratique. C'est ça l'enseignement de Jacques. Donc quel encouragement ici pour nous de voir un tel homme de Dieu qui voulait faire les choses que Dieu lui donnait. Puis pensons au Nouveau Testament. Paul était avec de jeunes croyants, Thessaloniques. Peut-être vous avez étudié la première épître aux Thessaloniciens. On voit là des jeunes croyants, trois semaines. Puis Paul, imaginons, Paul, l'apôtre Paul était avec eux. Ils étaient bien à l'aise avec l'apôtre Paul. Il était comme un frère pour eux, mais il était aussi comme une mère pour eux. Il a pris soin d'eux. Il était aussi comme un père pour les exhorter, peut-être pour donner une réprimande s'il était nécessaire. Mais il était là avec eux. Puis, Esdras, et instruit à l'école de Dieu, pourrait être comme l'apôtre Paul. Est-ce que nous pouvons aider l'un l'autre de telle façon? Puis ça nous amène au troisième point. Parce que là, il y a l'enseignement. Il y a quelques jours, je lisais un article dans Le Salut de Dieu, puis le frère là disait, on doit lire la parole jeune, parce que lorsqu'on aura 25 ans, il y aura peut-être des amis qui ne connaissent pas la parole de Dieu, puis on doit répondre à leurs questions. Lorsqu'on aura 30, on aura peut-être de petits-enfants, comme ici, Valérie, et Esther et les autres, ils ont des questions. Est-ce qu'on peut répondre à ces questions-là? Il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir répondre aux questions. Puis encore un peu plus loin, il y a des jeunes qui vont venir. On aura peut-être une réunion de jeunes. Puis ils auront des questions eux aussi. Donc, il faut qu'on lise la parole de Dieu lorsqu'on est jeune. Et puis c'est là où Dieu nous a instruit et nous prépare pour un service. Puis c'est là le service d'Esdras maintenant pour enseigner en Israël. Maintenant, il était prêt. Formé dans le secret, il a mis en pratique les pensées de Dieu et maintenant il pouvait enseigner en Israël. C'est beau de voir ça. Il ne dit pas enseigner à Israël, ce serait vrai aussi. Mais il faisait partie du peuple de Dieu. Il pouvait enseigner en Israël. Parce que vous voyez, si on enseigne en Israël, on reçoit aussi l'enseignement soi-même. Si le Seigneur parle par un frère ici, dimanche soir par exemple, ou le dimanche matin, ce frère-là est enseigné lui-même aussi. C'est ça le point. Donc, il a enseigné en Israël. Dieu, il était l'outil que Dieu a utilisé. Et puis, il était aussi instruit par la grâce de Dieu. Et on voit que c'était aussi la tâche des Lévites, ou les sacrificateurs, mais aussi les Lévites étaient établis pour enseigner. Les deux étaient établis pour enseigner en Israël. Les statuts, c'était les choses que Dieu avait gravées, ça c'est le mot original, donc gravées dans les tables de la loi. Et aussi les ordonnances sont les obligations ou les droits du peuple de Dieu. On voit beaucoup de détails dans le psaume 119 par exemple, à cet égard-là. Donc mon point c'est maintenant la formation à l'école de Dieu. Si vous avez tiré cette leçon ce soir, comment Dieu nous prépare? Comment Dieu prépare un petit enfant ou les jeunes qui sont avec nous? En lisant la parole de Dieu, en disposant nos cœurs pour rechercher la pensée de Dieu. Ensuite, pour mettre en pratique, pas les traditions de l'homme, mais pour mettre en pratique les pensées de Dieu. Ensuite, pour être un modèle. Parce qu'enseigner, là, ça veut dire être un modèle. Dans Tite, il est dit que les sœurs peuvent enseigner, hein, les sœurs qui sont plus âgées peuvent enseigner les jeunes sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sœurs, là, sont supposées d'être des modèles. C'est ça que ça veut dire. On enseigne par nos actions, par notre exemple, pas seulement par nos paroles. Si, mais on n'arrive pas là. Donc, on va juste prendre encore quelques minutes pour le restant du chapitre 7. On voit ici le roi Artaxerxès. Il était donc un descendant de Corès, ou de cette ligne des rois des Mèdes. Et puis, c'était même, je pense que c'était le fils de Xerxès, le roi qu'on trouve dans le livre d'Esther. Et puis ce roi était le même roi qui a donné l'ordre à Néhémie. Dans le livre de Néhémie, on voit le même roi qui a donné l'ordre à Néhémie pour reconstruire la muraille, donc la cité de la ville de Jérusalem. Il est ici dans la main de Dieu. Dans les Proverbes, il y a un verset qui dit que Dieu dispose les cœurs des rois comme les ruisseaux. Donc Dieu a disposé le cœur. Ça, c'est l'autre côté de la médaille. On a vu que Esdras a disposé son cœur pour rechercher la loi de l'Éternel. Ça, c'est notre responsabilité. Mais Dieu fait aussi certaines choses. Dieu peut même disposer le cœur d'un roi. Mais là, vous dites peut-être, bon, il faut que j'attende jusqu'à ce que Dieu dispose mon cœur. Non. Ça, c'est une grande erreur. Nous devons disposer nos cœurs pour connaître la pensée de Dieu, pour faire la pensée de Dieu. Ce que Dieu fait dans sa souveraineté, ça c'est une autre chose, ça c'est le côté de Dieu. Dieu peut disposer les cœurs du roi malgré leur désobéissance ou malgré leur endurcissement ou manque de compréhension. Mais ça c'est le côté de Dieu, ça c'est la souveraineté de Dieu. Et la souveraineté de Dieu, on voit ici. Mais est-ce que ça ne va pas ensemble avec les prières d'Esdras, avec nos prières, que Dieu peut diriger même les autorités d'un pays? Il y avait un frère au Maroc, dernièrement, il a visité quelques croyants là, puis il y avait plusieurs jeunes croyants ensemble, puis il avait besoin d'avoir encore une autre journée. Mais d'habitude, il travaillait le lundi. Mais là, le roi du Maroc était en visite dans cette région-là, puis tout le monde avait une journée off. C'est juste un exemple. Le Seigneur a dirigé que ce roi soit dans la région, puis les croyants pouvaient avoir une journée off pour étudier la parole encore ensemble. Donc, Dieu est en contrôle. Dieu dirige les circonstances. Puis, de notre côté, on voit aussi que les rois des Mèdes, comme on a vu dans Cyrus, nous donnent une illustration du Seigneur Jésus. Pourquoi est-ce que je dis ça? On voit sept fois Cyrus dans le livre d'Ésaïe. Puis, il a une image de Christ, comment il va régner dans le millénium. C'est peut-être aussi quelque chose pour ceux qui sont plus avancés là, mais c'est juste pour parler aussi de cet aspect-là, que Christ est préfiguré ici par ces rois-là, parce que Christ a toute autorité. Dieu lui a donné toute autorité dans les cieux et sur la terre, et Christ comme ce roi suprême est en contrôle, et puis il peut diriger les circonstances de telle façon que nous sur la terre, dans notre faiblesse, que nous puissions faire exactement ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc, ce côté-là, je voulais juste souligner brièvement. Verset 11 dit aussi que Esdras était un sacrificateur et un scribe. Donc, il était sacrificateur et scribe. Ces deux vont ensemble. Le service de Dieu comme sacrificateur va ensemble avec la connaissance de la parole. Scribe des paroles, des commandements de l'Éternel. Donc, ici, on voit l'emphase sur l'inspiration. On a affaire avec la parole de Dieu qui a été inspirée mot par mot. C'est pas pensée par pensée comme il y a des gens qui pensent de même. Non, mot par mot, il a été inspiré par Dieu. Ensuite, il y a des commandements. Dans Jean 7, le Seigneur dit, si vous voulez faire les choses de Dieu, là vous allez comprendre, je dis avec mes propres mots là, mais vous pouvez vérifier dans Jean 7, verset 17, si notre cœur est disposé pour faire la volonté de Dieu, c'est là où on va comprendre les pensées de Dieu. Mais si moi je ne veux pas faire la parole de Dieu, si je ne me soumets pas à sa parole comme des commandements, c'est pas parce que Dieu aime faire toutes sortes de commandements, ça c'est pas la pensée, mais sa parole devient comme un commandement pour nous. On veut plaire à Dieu, on veut se soumettre à la parole de Dieu, c'est ça la pensée. Et c'est l'Éternel. Ici, c'est l'Éternel dans sa relation avec son peuple. Nous avons affaire avec Dieu qui s'est révélé comme Père dans son Fils. Nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. On a tant de privilèges qu'Esdras n'a pas eu. Mais quand même, Esdras est un exemple pour nous dans sa fidélité. Il est dit aussi de ses statuts donnés à Israël. De nouveau, cette relation entre Dieu et son peuple. Donc, Artaxerxès nous parle de cela, de cette position d'Esdras, qui était aussi un scribe accompli. On a vu qu'il était un scribe versé dans la parole de Dieu, mais aussi ici, un scribe accompli. Il connaissait la parole de Dieu, puis il pouvait l'enseigner, comme nous avons vu dans verset 10. La loi du Dieu des cieux. On reconnaît encore que Dieu s'est retiré dans les cieux. Ça, c'est le contexte du livre d'Esdras, mais on l'a mentionné dans notre introduction. Et maintenant, ce roi, sous la main de Dieu donc, donne ses ordres, puis je voulais juste souligner quelques points. Verset 13 à la fin. Cet appel pour ceux qui sont disposés. Est-ce que vous l'avez vu? Ceux qui sont disposés. On voit dans le Nouveau Testament que le cœur de Dieu est disposé en bien. Disposé pour montrer la grâce. Ici, sont des membres du peuple de Dieu qui sont disposés, pourquoi ? Pour aller à Jérusalem. C'était un lieu de reproche. Là, on a vu ça déjà dans notre première étude. Le lieu du rassemblement, selon les pensées de Dieu, est un lieu de reproche. Là, Jérusalem, c'est encore aujourd'hui une petite ville. Dans ces jours-là, c'était encore beaucoup pire. C'était une ville en reproche. Puis on voit ça dans Néhémie encore mieux. C'est pas tente, ça ne tente pas d'y aller, selon la chair. La plupart des Juifs restaient là, à Babylone. Ils étaient à l'aise là. Ils ont commencé des entreprises, des commerces, toutes sortes de choses. Ils étaient à l'aise. Ils avaient aussi la parole de Dieu. Puis Dieu les a bénis aussi, le livre d'Esther le montre. Mais ils n'avaient pas cette relation avec Dieu, comme à Jérusalem. Ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie spirituelle. Mais il était disposé. Le Seigneur était disposé de rester avec les disciples lorsqu'il était dans la barque. Mais nous devons aussi être disposés de faire quelque chose pour lui, pour sa gloire. Verset 14, « Puisque tu es envoyé par le roi et ses sept conseillers, pour t'enquérir au sujet de Juda et de Jérusalem, selon la loi de ton Dieu. » Donc, le roi encourage que le service de Dieu soit rétabli ou encouragé. Comme j'ai expliqué, c'était la stratégie des rois des Mèdes et des Perses. Et un peu plus loin, on voit aussi que c'était pour son propre intérêt aussi, parce qu'il savait que le peuple priait pour le roi. Comme aujourd'hui, 1 Timothée 2, on prie pour les autorités. Verset 14, à la fin, nous dit « Dieu, ton Dieu, qui est dans ta main. » Donc, la loi de ton Dieu qui est dans ta main. On en a parlé, parce qu'il voulait faire la parole de Dieu. Il s'était approprié de la loi pour la faire. C'est pour ça que la loi, la parole de Dieu était ici, est identifiée avec sa main. Mais aussi, maintenant, un autre élément, verset 15, « Pour porter l'argent et l'or. » J'ai dit « Dieu est grand, Dieu veut enrichir son peuple, même dans un temps de ruine où Esdras vivait. Il y avait de l'argent et de l'or. » Moi, j'ai lu un verset cette semaine dans le psaume 105, verset 37, qui dit que Dieu les a fait sortir de l'Égypte, de l'esclavage, et les a enrichis avec l'argent et l'or. Et ensuite, il n'y avait pas d'infirmes au milieu d'eux. Donc, c'est l'œuvre de Dieu qu'on voit ici. C'est Dieu qui donne l'argent et l'or. Maintenant, est-ce qu'il donne pour nous, aujourd'hui, de l'argent et de l'or dans un sens physique? Peut-être ça aussi, ça dépend de nos besoins. Mais la leçon qu'on peut tirer de ça aussi, Dieu donne de l'argent d'une façon spirituelle. L'argent nous parle de la rédemption. Dieu veut ajouter à notre connaissance de la rédemption. Si on est jeune converti, on ne comprend pas encore tous les aspects de la rédemption, toute la grandeur de Dieu comme rédempteur. Et même si on est plus avancé, on va jamais arriver au bout qu'on peut dire « Maintenant, je comprends tout de la rédemption, tout du prix que le Seigneur Jésus a dû payer. » Parce que l'argent nous parle du prix qu'il a payé pour notre salut. C'est un prix immense qui peut sonder l'immensité du prix que le Seigneur Jésus a payé. Puis justement, ce qu'on a appris de cela, ce que Dieu nous donne aussi comme argent, notre connaissance de la rédemption, on va ajouter ça aux trésors qui sont à Jérusalem. Pourquoi? Pour enrichir le peuple de Dieu. Si vous avez appris quelque chose du prix de l'œuvre de Christ, vous pouvez venir avec des cœurs remplis le dimanche matin. Vous pouvez contribuer quelque chose. Même comme sœur, vous avez des choses à contribuer. L'Esprit de Dieu connaît exactement ce qui est dans votre cœur. Et puis ça va enrichir tout le rassemblement. Puis l'or nous parle de la gloire de Dieu. Est-ce que nous avons une impression de la gloire de Dieu? La maison à Jérusalem nous parle de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, dans notre société, c'est la gloire de l'homme, c'est la gloire de moi. On ne cherche pas la gloire de Dieu. Mais si nous cherchons la gloire de Dieu, si nous avons appris quelque chose de la gloire de Dieu, ça va enrichir tout le rassemblement. Donc, ça va enrichir le temple, ça va amener aussi l'adoration. Un peu plus loin, on a encore cette pensée-là. Le Dieu d'Israël, verset 15 au milieu, dont la demeure est à Jérusalem. Donc je souligne ça, parce que Dieu habitait là. On a affaire avec le lieu où Dieu habite, selon ses pensées, pas selon nos pensées, selon les pensées de l'homme, selon ses pensées. Il était là, c'était le lieu qu'il avait destiné pour ça, et indiqué, c'est là où il habitait. On peut lire au début, le premier chapitre, j'ai donné quelques exemples, mais on en a encore beaucoup d'autres qui confirment cette pensée-là. Verset 16, il parle aussi de l'offrande volontaire. C'est de nouveau la question du cœur. Dieu ne cherche pas, il n'est pas comme quelqu'un qui exige. Dieu attend la réponse d'un cœur volontaire. C'est ça qu'on peut apprendre de ces passages-là. Mais aussi verset 17, tu achètes donc promptement. Et il y a cet empressement dans le service de Dieu. Et dans le verset 17, un peu plus loin, il parle de beaucoup de détails de service de Dieu. J'ai parlé de la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a un service. Puis toutes ces choses ont une place. Les béliers nous parlent des sacrifices du Seigneur Jésus. Les bœufs nous parlent d'un autre aspect du Seigneur Jésus. Les agneaux, de nouveau, d'un autre aspect du Seigneur Jésus et de son sacrifice. Les offrandes de gâteaux nous parlent de la vie du Seigneur Jésus. Les libations aussi, de son dévouement à Dieu. Donc il y a beaucoup de détails qu'on ne peut pas vraiment pénétrer ce soir, mais juste toucher là. Et on voit ici comment Dieu a dirigé le cœur du roi pour que ce service soit soutenu et continué. Une fois commencé, il faut que ce soit continu. C'est là l'exercice d'Esdras. Pour nous aussi, est-ce que le service de Dieu continue jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne? On a l'autel à la fin du verset 17, la maison et Jérusalem de nouveau. Verset 18, selon la volonté de votre Dieu. Je souligne simplement cette expression-là. On voit comment c'est important, la volonté de Dieu. Verset 19, les ustensiles. On a vu dans le premier chapitre que les ustensiles parlent aussi des croyants. Nous sommes des vases pour le service de Dieu. Et ainsi, les ustensiles étaient sous le contrôle de Babel. Maintenant, ils sont placés, transportés pour être sous le contrôle de Dieu qui habite à Jérusalem. Est-ce qu'on est sous le contrôle du Seigneur Jésus qui habite au milieu de nous, comme des vases pour sa volonté? 2 Timothée 2, par exemple. De nouveau, à la fin du verset 19, devant le Dieu de Jérusalem. Donc Dieu s'identifie avec ce lieu-là, puis le roi reconnaît ça. Dans le verset 21, il donne des ordres pour les gouverneurs dans cette région-là, pour donner tout ce qui est nécessaire pour le service de Dieu. Donc on voit ici comment ça va loin, que le roi donne des instructions aux gouverneurs de cette région-là, pour donner tout ce dont Esdras avait besoin pour le service de Dieu. Il fait mention là de talents d'argent, ça c'est la base, la rédemption, comme on a dit, et puis il faut toujours que des éléments soient ajoutés pour continuer ça. Les 100 corps de froment, justement pour continuer ce service des cathos et tout ça, les 100 battes de vin, comme pour la libation, pour tout ce service, l'huile aussi, en rapport avec, pour nous, c'est l'œuvre de l'esprit, la joie que l'esprit donne, tout cela est nécessaire pour le service de Dieu. Tous ces éléments sont nécessaires. Et Dieu est là pour nous donner tout ça. Le sel, c'est un autre élément qui est nécessaire. Tous les sacrifices devaient être offerts avec du sel. Tous les sacrifices. Pourquoi? Ça nous parle de la séparation du mal. Ça nous parle aussi du principe du jugement de soi-même, comme on voit dans Colossiens 4, par exemple. Ça nous parle vraiment qu'on est dans une condition selon les pensées de Dieu. Le sel était nécessaire. Tout est ordonné par le Dieu des cieux. Soit fait exactement pour la maison de Dieu. Si nous pouvons voir une chose dans Esdras, c'est le mot exact. Il a fait exactement. Et puis aujourd'hui, ça ne va pas moins que ça. Il faut faire exactement selon les pensées de Dieu. Pas juste 20% ou peut-être 90%, non, 100%. C'est ça le standard de Dieu. Et 100%. On ne peut pas diminuer le standard de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas de patience avec nous. Il a beaucoup de patience. Mais le standard est le standard.